Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Radio Campus Tours 99.5 ou radiocampustours.com et vous écoutez Ménage-toi Simone, le premier épisode de la deuxième saison.
Ah, les bonnes femmes! Je préfère voir tes fesses que ta gueule. Elles sont plus agréables à regarder.
Justement, est-ce que je pourrais avoir une autre de vos petites putes asiatiques? La mienne est morte.
Ménage-toi Simone.
Ménage-toi Simone, c'est une émission produite par Radio Campus et réalisée par le réseau de Simone, un collectif de bénévoles réunis dans d'une manière non associative au Bige 37, un collectif composé de jeunes hommes et femmes qui veulent lutter pour l'égalité des femmes et des hommes. On est très content de vous retrouver sur les ondes de Radio Campus pour une saison 2. On reprend une fréquence mensuelle de nos émissions et pour l'émission de septembre, je suis avec trois camarades autour de la table et un invité. D'abord, nous accueillons Anaïs. Bonjour Anaïs.
Bonjour, je suis trop contente. C'est la saison 2 et c'est la rentrée. Et j'avais oublié que le jingle était aussi cool. Enfin bref, voilà, je suis trop contente.
Salut. On accueille également Romane.
Bonjour.
Ophélie aussi.
Bonjour et bienvenue pour la saison 2.
Et notre invité ce matin, c'est Mathis. Salut Mathis.
Bonjour.
On t'avait déjà accueilli une première fois en tant qu'auditeur, et puis bah là, on est très content de t'accueillir de nouveau autour de la table, donc pour cette première émission de la saison 2.
Donc... Nous avons Merlin aussi, qui ne se présente pas.
J'oublie toujours, votre humble serviteur, je suis Merlin, je suis à l'animation de cette merveilleuse émission, je suis aussi très content de revenir pour une nouvelle saison. Dans sa structure, l'émission reste la même, on ne change pas les bonnes habitudes, on commence par des actualités, puis une discussion, un petit focus un petit peu plus sur une actualité en particulier. On retrouvera une chronique également, la rubrique « Tout n'est pas perdu », on rassemble les bonnes nouvelles de la cause pour l'égalité des femmes et des hommes, quelques recommandations culturelles et aussi où se revoir ou sortir à Tours. On commence directement donc par les actualités qui sont sortis le dernier mois, ou les derniers mois, parce que du coup, ça a été riche en actualités tout au long de l'été, on n'a pas été là pour en faire des émissions et en parler, du coup, on peut s'autoriser de prendre des actualités un peu plus anciennes cette fois-ci. On a chacune autour de la table une actualité à vous partager. Qui souhaite commencer?
Moi je veux bien.
Ophélie, vas-y.
Moi j'aimerais vous parler de Asma Mohamed Abdallah, qui est devenue la première femme ministre des Affaires étrangères au Soudan, mais aussi dans toute l'histoire des pays arabes. Il faut savoir qu'elle était déjà au ministère des Affaires étrangères dans les années 80 et elle a été mise de côté quand il y a eu un putsch et du coup, elle n'a pas pu continuer la politique. Là, elle revient à 73 ans. C'est une belle histoire, je trouve. Et son principal objectif, c'est de faire sortir le terrorisme du Soudan et de renouer des relations cordiales avec les pays avoisinants et surtout de laver un petit peu son pays. Donc bon courage à elle et puis j'espère qu'elle le fera une bonne carrière avec tout ce qu'on lui souhaite de mieux.
Trop bien, c'est marrant, ton actualité elle fait le lien avec un truc dont je parlerai un peu plus tard dans les bonnes nouvelles, je crois.
Ah.
Bon, je vais aussi parler de femmes politiciennes. Quelle autre actu? Qui enchaîne? Romane peut-être?
Ouais, je vais enchaîner. Alors moi aussi c'est plutôt on est dans les actus, mais ça reste quand même une bonne nouvelle qui met en lumière des choses plutôt flippantes, enfin je trouve. Très récemment là, cet été, une députée de La République En Marche propose de créer une proposition de loi pour 2020. Donc, a été mis en place une mission parlementaire qui vise à interdire les thérapies de conversion ou toute pratique qui altère la santé physique ou mentale des personnes pour changer l'orientation sexuelle des gens. Donc, cette mission parlementaire, elle va regrouper plusieurs personnes, plusieurs professionnels et plusieurs députés pour un peu faire l'ampleur des dégâts en France. C'est quelque chose qu'on connaît beaucoup aux États-Unis et dont on parle peu en France, qui a souvent En général, on va pas dire thérapie de conversion, mais ça va plutôt être dans les milieux religieux, ce qu'on va appeler des stages, des soins, des séminaires. Et le but est de faire revenir les gens, enfin revenir avec des gros guillemets, les gens à l'hétérosexualité ou faire le choix de la chasteté. Le projet de loi est de, d'en faire un emprisonnement de 2 ans et de 30 000 euros d'amende. Donc j'ai pris des propos recueillis sur France Inter d'un témoignage d'un jeune d'une communauté évangélique donc, qui est sorti de ce que nous on appelle thérapie de conversion. Donc je vous lis. Ça a commencé par 6 jours de jeûne. Au bout de 6 jours, il y a une journée de délivrance. Des pasteurs vous entourent en hurlant des formules « que l'esprit de l'homosexualité te quitte ». C'était une atmosphère très particulière, avec la fatigue, avec l'émotion, avec la musique, avec la position des mains, on se retrouve souvent par terre. Personnellement, j'ai été pris jusqu'au vomissement. Je suis sortie de là comme libérée, mais évidemment, ça n'a pas duré. Et ce genre de témoignages, il y en a énormément. Et c'est des milieux qui sont très difficiles à des milieux où il est très difficile de rentrer. Donc je pense qu'on est pas au bout de nos surprises. Donc voilà.
Merci Romane pour cette actualité. Moi j'enchaîne avec la mienne. Moi je voulais parler d'une actualité un petit peu diplomatie internationale. En fait, il y a eu récemment le G7 en France qui a réuni donc les chefs d'État des 7 plus grandes puissances mondiales, enfin des 7 plus grands, des 7 plus États les plus puissants. Après, je ne sais pas tout à fait comment c'est déterminé et puis ce n'est pas tout à fait le propos de ce que je veux raconter. En fait, au cours de ce G7, le président français Emmanuel Macron a critiqué la politique de Jair Bolsonaro, le président brésilien, sur sa gestion de la crise environnementale qui s'agit des incendies qui ravagent la forêt amazonienne sur le territoire brésilien, mais sur les territoires de différents pays d'Amérique du Sud. Et en fait, voilà, donc une petite critique de la part du président français qui a entraîné du coup une crispation des tensions entre les deux nations. Au milieu de cette dispute, sur Internet, il y a eu un Brésilien qui a posté un photomontage où il dit « Ah bah je comprends pourquoi le président français il a le seum ». Et ensuite on voit deux photos. La première c'est le couple présidentiel français et la deuxième c'est le couple présidentiel brésilien qui met bien en avant donc à quoi ressemblent les deux premières femmes de chaque pays. Et donc on voit Brigitte Macron et puis on voit je ne sais pas comment s'appelle la première femme brésilienne, mais du coup on constate que l'une est plus âgée que l'autre et c'était spécifiquement sur ça que cet internaute brésilien disait que le président français avait les boules ou avait la rage contre le Brésil, c'est parce que sa femme était trop vieille.
Et
ça m'a particulièrement énervé, puisqu'en fait, il y a eu une sorte d'escalade où, en fait, le président français a répondu que c'était très immature, et après, il y a plusieurs autres personnalités brésiliennes politiques qui se sont excusées publiquement pour le comportement. Ah oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que sur Internet, en rapport avec ce photomontage, il y a le compte très officiel et très certifié du président de la République qui a commenté, qui a dit « Oh là là, t'abuses, attends, le ridiculise pas et tout, machin. »
Oh là là là, le niveau.
Voilà. Et donc voilà, ça n'aurait pas été pris avec tant d'importance si le président lui-même, le compte officiel du président, n'aurait pas commenté ce photomontage. Et donc après, comme je l'ai dit, bah, y avait beaucoup de personnes qui sont excusées pour le comportement de leur président. Il y a des personnalités voilà, qui ont directement adressé leurs excuses à Brigitte Macron. Et ça aurait pu en rester là, sauf que bah, pour le coup, très très récemment, et c'est pour ça que j'en parle, c'est pour ça que j'ai choisi ça comme actualité, c'est qu'il y a un autre politique brésilien qui, au cours d'un discours, a dit quelque chose comme, au sujet de cette histoire, qui a dit « En fait, il a raison, Jair Bolsonaro, elle est vraiment moche, Brigitte Macron !» Et bim, retaqué comme ça, machin. Et en fait, ça m'a fait penser au début du mandat du président Emmanuel Macron, puisque... Au début, lorsqu'il a été élu, ben on a beaucoup parlé de sa femme, de voilà, la différence d'âge, qu'elle était vieille, tout ça. Et beaucoup de personnes se sont permises de faire des remarques très très sexistes et très très dégradantes, irrespectueuses. Et j'avais plutôt apprécié en fait, le réveil qu'il y avait eu par rapport à ça, de se rendre compte qu'en fait, tout ce qu'on racontait sur Brigitte Macron, c'était super irrespectueux, super sexiste. Et après, s'être rendu compte de ça, il y avait une sorte de commun accord parmi les différents humoristes ou chroniqueurs ou journalistes français qu'on n'en peut plus du tout parler. Et j'avais plutôt apprécié voilà, qu'on prenne conscience de ça et qu'on l'acte. Sauf que voilà, on se rend compte que bah, sur d'autres aspects, y compris sur des plans de diplomatie internationale, on se permet de mettre ça au centre du débat, au centre de la question, alors que c'est profondément dégradant pour la première dame, mais également pour toutes les femmes en fait, puisque ben vraiment c'est une figure, c'est une représentation. Et là, voilà, la représentativité, c'est un truc. Je pense qu'on on a eu l'occasion d'en parler, mais là ça fout un coup dur à la considération des femmes et aussi comment les femmes doivent se voir elles-mêmes en fait à cause de ce genre de comportement là. Voilà pour mon actu.
Merci Merlin.
Merci. C'était cool.
Je vais passer la parole à Anaïs.
Oui.
Pour la dernière actu.
Alors moi je fais pas de chronique cette semaine, mais je vais quand même réussir à péter l'ambiance puisque je vais parler du Grenelle des violences conjugales. Donc il a été lancé le 3 septembre et il durera jusqu'au 25 novembre. L'idée c'est qu'à Paris et en province, des représentants des services de l'État, des associations, des personnels soignants, des élus locaux, des magistrats, des proches de victimes et des avocats échangent sur les moyens de venir en aide aux victimes. Donc le 3 septembre, ça a été lancé en grande pompe à Matignon en présence des familles de victimes. Le Premier ministre Édouard Philippe devait annoncer de premières mesures d'urgence visant à renforcer la protection des victimes. Alors les assos féministes sont au taquet, elles veulent que l'événement débouche vraiment sur un plan Marshall doté d'au moins 500 millions voire 1 milliard d'euros. Donc c'est bien loin des 79 millions d'euros de crédits spécifiquement alloués à cette lutte actuellement, selon une étude menée par 5 organisations. Alors bon, le Grenelle n'est pas encore fini, donc on va pas peut-être pas s'énerver tout de suite, mais n'empêche que dès le premier jour, Édouard Philippe a refusé de débloquer des moyens supplémentaires pour lutter contre les violences sexuelles. Et 2 jours après, Emmanuel Macron a annoncé la création d'un fonds de 5 milliards d'euros pour financer la French Tech. Donc, le collectif Nous Toutes avait lancé que c'était quand même du foutage de gueule niveau expert. Voilà. Donc, du coup, bah voilà, rien de plus à dire sur ça pour l'instant. On verra bien ce que ça va donner, mais j'espère que ça va déboucher sur quelque chose, puisque là, à l'heure où on enregistre cette émission, je crois qu'on en est au 104e ouais. Féminicide.
Mmh. Voilà. Ouais, c'est ça.
Donc, la tendance se maintient.
Merci Anaïs, et par rapport à cette dernière actualité, c'est le sujet qu'on a décidé de traiter donc dans la discussion après la première pause musicale. Donc c'est le sujet de la discussion de notre émission de rentrée, les violences conjugales d'une manière générale, ce qui a été évoqué et introduit dans l'actualité, dans le débat public à l'occasion de ce Grenelle des violences conjugales que tu nous as présenté, Anaïs. Donc première pause musicale, chanson qui est en rapport avec ça, il me semble.
Oui, absolument.
La chanson s'appelle Bébé.
La chanson s'appelle Malo et l'artiste s'appelle Bébé.
Je n'y arriverai jamais. Ouh. Je crois que ça va devenir un gimmick. La chanson s'appelle Malo et l'artiste c'est Bébé. On écoute ça.
Apareciste una noche fría, uno lo ataba con sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor. Y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor. Estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego. Voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir. Cuando te vas y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, estoy cansa y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo ni que nadie. Y ahora yo me fumo un cigarrito y te echo el humo en el corazón pito, porque malo, malo, malo eres tú. Malo, malo, malo eres sí. Malo, malo, malo eres siempre. Malo, malo, malo eres.
C'était Malo de l'artiste Bébé sur Radio Campus Tour 99.5 ou radiocampustour.com. Dans l'émission Ménage-toi Simone, saison 2, épisode 1. On est toujours autour de la table avec Anaïs, avec Ophélie, avec Roman, avec Mathis comme invité. Et moi, c'est Merlin.
Il n'a pas oublié son prénom.
Yes.
C'est parti pour la discussion donc, de notre émission, le thème principal, donc les violences conjugales, avec énormément de choses à dire, puisque bah, dans l'actualité, on a eu le Grenelle des violences conjugales présenté par Anaïs juste avant. On a aussi des chiffres très éloquents sur le nombre de féminicides exécutés par les compagnons ou ex-compagnons des victimes depuis le début de l'année. On a également des mises en place, certaines législations qui évoluent aussi. Et donc voilà, on va parler de tout ça. Qui voudrait commencer par présenter les différentes informations qu'on a accumulées?
J'aurais voulu revenir un peu sur l'info d'Anaïs, sur le Grenelle des violences conjugales, histoire d'un peu râler quand même en commençant. Il y a une loi qui a été faite en 2010 qui annonçait déjà des choses que là le Premier ministre, en gros Édouard Philippe annonce en disant on va faire plein de choses, etc. Et en fait la plupart des choses qui sont annoncées sont déjà des choses qui sont inscrites dans la loi de 2010, comme par exemple les bracelets électroniques, les plaintes en hôpitaux, l'augmentation des nombres de places en hébergement. En fait c'est des choses qui existent déjà mais qui sont juste pas appliquées. Du coup ça sonne un peu Je m'avance un peu, mais un peu effet de pub, on va faire des trucs, alors qu'en fait, ces choses-là ont déjà été annoncées il y a 10 ans, en fait, quasiment, et sont pas mises en place par les différentes juridictions. Et ouais, après, sur le budget, les assos féministes considèrent qu'en gros, il faudrait 1 milliard d'euros pour mettre en place tout ça, parce que... En gros, pour les préventions dans les écoles, les campagnes de prévention régulières, les formations des policiers, des travailleurs sociaux, des médecins, des profs, la prise en charge rapide des protections, parce qu'aujourd'hui, il faut quasiment 3 semaines pour avoir une ordonnance de protection, quand on a déposé plainte, c'est énorme. Je veux dire, 3 semaines, t'as le temps de te faire tuer 3 fois, quoi. Je veux dire, c'est un truc de taré. Et même... payer des gens sur le terrain, ça demande plus que ce qui a été annoncé. Donc je salue l'initiative de faire un rassemblement pour discuter autour des violences conjugales, mais après voilà, quand on voit on met 5 milliards d'euros pour d'autres trucs, et que, enfin, peut-être qu'il faut, à mes yeux, il faudrait peut-être revoir les priorités sur tout ça. Voilà pour moi.
Je suis d'accord avec toi, Roman, je salue aussi, mais déjà ça arrive beaucoup trop tard. Enfin, après c'est peut-être le temps de l'organisation, mais ça aurait dû être fait il y a des années. Et effectivement, toutes les mesures ont déjà été prévues dans la loi, mais c'est un peu C'est un peu ce qui se passe dans toutes les politiques. Typiquement, je prends l'exemple de l'égalité professionnelle. Il y a énormément de choses qui sont dans la loi, qui ne sont pas appliquées. Et pourtant, on refait une loi tous les 15 ans, alors que ça ne sert strictement à rien. Donc, sur un sujet aussi important que les violences conjugales, je comprends pas. En fait, on fait du surplace, on n'avance pas alors qu'on connaît très bien la situation. Et ouais, c'est désespérant. En même temps, ça met en colère. Je ne sais pas où on va.
Alors, je pense qu'on connaît mais la situation, mais il se voile quand même peut-être un peu la face. Je sais pas si vous avez vu, mais du coup, à l'occasion de ce Grenelle, Emmanuel Macron a visité un centre d'appel pour les victimes. Et en fait, ça a bien démontré, parce que d'après la plupart des gens, en fait, il n'y a pas de problème de prise en charge au niveau des commissariats, les professionnels sont formés, etc. Et en fait, il s'est passé que donc Emmanuel Macron a visité un peu incognito un centre d'appel. Il y avait juste, je crois, l'AFP et Libération qui était sur place pour couvrir le truc. Et en fait, au moment où il a visité, il y a une femme qui était en ligne et qui expliquait qu'en fait, elle était au commissariat la gendarmerie, et qu'en fait elle était venue pour déposer plainte contre son mari et qu'elle voulait qu'un gendarme l'accompagne chez elle pour récupérer les affaires, ce qui normalement est prévu dans le cadre de la loi, sauf qu'en fait le gendarme refusait de l'accompagner. Et en fait Emmanuel Macron pouvait pas intervenir parce qu'il était vraiment là en mode observateur, mais alors les journalistes de Libé disent qu'il a levé les yeux au ciel, qu'il était vraiment pas content, parce qu'en plus en termes de com il vient pour dire qu'il y a pas de problème de prise en charge, et le moment où il est là, forcément il y a un truc de prise en charge. Donc la personne qui était écoutante a essayé vraiment de convaincre le gendarme, mais il a pas voulu. Il a expliqué que pour lui, il aurait fallu au préalable un ordre d'huissier. Bref, il a pas voulu en fait accompagner la femme chez elle. Donc du coup, là, a priori, il y a une enquête administrative qui est lancée par l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Alors, est-ce qu'elle est lancée parce que Emmanuel Macron était là et que ça fait un peu désordre
quand
même?
Je pense pas que ce soit la première fois que ça arrive, ce genre de truc.
Non, c'est sûr. Bah, du coup, moi j'avais lu l'article sur Libé, et il y a Peyta Schneck qui avait réagi sur Twitter en disant que, au lieu de demander à la police si elle fait bien son travail, mettait en place un système de victimes mystères qui teste l'accueil et la prise en charge dans les commissariats gendarmerie, comme Stop Harcèlement de Rue et Moi étant d'autres le proposons. Comme déjà dit, cela permettrait d'identifier les commissariats qui posent problème, de sanctionner les agents qui font mal leur boulot et de pousser tous les autres à se former et avancer sur la question. Ce n'est pas de la défiance, c'est juste une nécessité. Et honnêtement, je pense qu'il y a des policiers de gendarmes qui font bien leur boulot, mais au bout d'un moment, là on a quand même une preuve que ça ne marche pas à chaque fois. J'ai pas regardé le documentaire sur les violences sexuelles qui était passé sur Arte il y a pas longtemps, mais qui montre qu'en gros dans un bureau où ils reçoivent des victimes, il y a une affiche de 50 nuances degrés derrière. Enfin, je veux dire, il y a quand même il y a un souci quoi dans cette prise en charge là. Et quand bien même la prise en charge elle est faite et les femmes vont jusque là, il y a plein de femmes qui meurent quand même. Donc qu'est-ce qui se passe en fait entre le moment où elles font l'effort je sais pas si c'est un effort, mais qu'elles arrivent à aller jusqu'à porter plainte, qu'est-ce qui se passe pour qu'il se passe rien,
sachant que la démarche d'aller porter plainte pour une femme victime de violence, c'est quelque chose d'énorme, parce que les violences conjugales, c'est quelque chose dans lequel les victimes sont en prise, et en prendre conscience, sortir du silence, sortir de la honte, le dire. Je me dis, si en face de toi t'es là, t'as mis ta vie en danger et probablement celle de tes enfants aussi pour aller porter plainte, et qu'on te dit attendez le dossier administratif, j'attends le huissier de justice pour savoir si je peux vous raccompagner chez vous, je me dis mais en fait il se passe quoi? Enfin, je veux dire, si on attend que l'administration française, qui est d'une lenteur incroyable, donne son aval pour faire les choses, évidemment qu'on est à 104 féminicides dans l'année. Enfin, je veux dire, enfin, pas dans l'année, genre là, depuis le début de l'année, quoi. C'est un truc de taré, quoi, vraiment.
Et pour rebondir sur ce que vous disiez, que justement, en France, on occulte un peu le problème de la prise en charge dans les commissariats de police et de gendarmerie. Sur Twitter, il y a un mois à peu près, il y a une jeune femme dont le pseudo est Osmose, qui a fait un petit peu un recueil et de prise de parole, parce qu'elle a dénoncé, elle avait appelé la police pour quelqu'un où elle entendait des cris, des menaces de mort, et la police lui a répondu qu'il pouvait rien faire. Et sous ce tweet, du coup, il y a énormément de personnes qui ont expliqué leur situation, soit témoin, soit victime. J'ai fait une petite sélection. Donc on a Lilou le Manchot qui répond « Ah oui, comme la fois où une amie de la famille s'est retrouvée dehors en pyjama après avoir failli se prendre une chaise dans la gueule, et quand elle est allée voir la police, on lui a dit d'apprendre à se quitter intelligemment. » Ou Guillemette, GG Guillemette, qui dit « Remember quand j'ai appelé la police ou ma voisine quand j'entendais son mec hurler et que j'ai commencé à entendre des bruits de coups, bah rappelez dans une heure si ça s'est pas calmé. Une heure plus que suffisante pour qu'elle meure par exemple, j'y suis allée moi-même. » On a aussi Roti Durque qui dit « Quand tu es le seul à appeler parce que la voisine a hurlé, il va me tuer par sa fenêtre. Que la dame au standard se focus sur le code pour ouvrir le bâtiment du voisin et qu'elle t'engueule presque d'avoir appelé. Que les flics arrivent 45 minutes après quand il n'y a plus de bruit. » Bon voilà, ça c'est juste un petit florilège on va dire. Et on a eu le cas avec Mathis justement, parce qu'on a une voisine du dessus, son mec on l'entend très souvent hurler et taper contre des choses, et un jour elle pleurait, on a appelé la police, ils ne sont jamais venus. Voilà, donc quand on dit qu'il y a des petits soucis au niveau de la prise en charge, bah, c'est vrai.
C'est pas juste une fois quand Macron débarque, c'est, je pense,
Moi, je trouve ce que tu racontes, Ophélie, c'est vraiment un symptôme qui montre justement que la voie judiciaire, juridique un petit peu, pour sortir et se libérer de violences conjugales est vraiment très... dysfonctionnel actuellement. C'est parce que justement aujourd'hui on a les réseaux sociaux qui sont des moyens de communiquer rapidement, quand on voit qu'à l'heure actuelle c'est le meilleur endroit pour que les victimes reçoivent du soutien, pour que les victimes puissent s'exprimer, puissent être entendues et puissent se rendre compte qu'elles sont pas seules et malgré tout d'une certaine façon trouvent de l'aide, puisque c'est pas en publiant sur les réseaux sociaux sa situation qu'on va avoir un hébergement d'urgence ou se libérer de cette situation-là, mais c'est tout de même sur cette plateforme-là, par ce biais-là, par ce moyen de communication-là, que les victimes trouvent le plus de répondants, le plus de réconfort et le plus de soutien, comparé à ce qui devrait être donc la prise en charge par des personnes représentantes de l'ordre et de la paix. C'est vraiment, vraiment symptomatique que ça va mal et que c'est que l'accompagnement et la formation des personnes, des professionnels... est très très insuffisante et qu'elle aboutit aux chiffres qu'on a à l'heure actuelle, donc 104 féminicides depuis 1er janvier 2019. Et voilà.
À propos des associations, du coup, qui sont les premières écoutantes des femmes victimes de violences, pour celles qu'il y a sur Tours, donc on a SOS Médecins, place Jean Jaurès, le planning familial, donc place Neuve au Sanitas. Et au planning familial, il y a des groupes de parole qui sont faits pour les femmes victimes de violences. Et il y a aussi des groupes de parole de prise en charge des auteurs de violences. C'est quelque chose dont on ne parle pas et qui... est assez controversé dans l'opinion publique, mais en fait si on prend pas en charge les auteurs de violences, on n'avancera jamais, parce que c'est aussi un souci psychologique de leur part, et les choses commencent pas, on devient pas auteur de violeur de oula auteur de violence du jour au lendemain, pardon. Et en fait, voilà, si on avait pris les choses avec attention, peut-être qu'on n'en serait pas là. En association, nous avons aussi France Victimes 37, donc pareil, dans les mêmes locaux que le planning familial, donc au centre de vie du Sanitas, place Neuve. France Victimes, la différence, c'est que c'est une aide juridique. C'est-à-dire que les victimes de violences conjugales, de toutes sortes de violences, qui n'ont pas eu... gain de cause auprès de la justice, vont se rendre à France Victimes, qui va avec des juristes qui vont les aider à monter un dossier pour ça. Donc on peut y aller librement au Sanitas, mais il y a aussi de nombreuses permanences, et notamment dans les universités, et ça je trouve que c'est quelque chose d'hyper important, parce que les violences conjugales et les violences tout court, en fait, c'est pas juste
un couple avec enfant de 40 ans.
Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Ça peut commencer quand on a 20 piges et que bah voilà, il y a quelque chose qu'on sent qui va pas, et donc voilà, la démarche des permanences dans les universités, je la salue grandement.
Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, à moins que Merlin, tu voulais intervenir.
Oui, mais après toi, Anaïs.
D'accord. Pour rebondir sur le fait que les violences, ce n'est pas que dans un couple classique, enfin voilà, le couple avec enfant de 40 ans, et qu'en fait les violences, ça, c'est très insidieux et ça, c'est pas que des coups, forcément. Alors en fait, il y a la mairie de Paris qui a mis en place un outil pour sensibiliser les plus jeunes aux violences dans le couple. Donc cet outil, il a été créé avec les observatoires des violences faites aux femmes de Paris et de Seine-Saint-Denis et l'association En Avant Toutes. Donc l'outil, ça s'appelle le violentomètre. En fait, c'est une règle graduée qui va du vert au rouge vif et qui énumère 23 situations auxquelles une femme peut être confrontée dans son couple. À partir de la couleur orange, une femme doit commencer à s'inquiéter et demander de l'aide. Donc la règle, ça va de respecte tes décisions et tes goûts, et tout en bas, c'est t'oblige à avoir des relations sexuelles. Donc vous voyez un petit peu le voilà. Entre tout ça, il y a plusieurs niveaux. Donc ça, il y en a plein de différents. Mais dans le orange, on a déjà t'ignore des jours quand il est en colère, te manipule, se moque de toi en public, est jaloux en permanence, etc., etc. Donc en fait, c'est là qu'on voit que la violence, ça peut commencer beaucoup plus tôt qu'on ne le pense, et qu'il y a beaucoup de gens qui potentiellement sont dans des relations toxiques et dangereuses pour eux et qui ne s'en rendent pas forcément compte. Voilà.
Tu parlais, Jeanne-Anaïs, justement de ce qui a été mis en place du côté de Paris, la région parisienne. Moi, je me suis renseigné sur ce qu'il en était en Indre-et-Loire, et en fait, mes recherches ont été facilitées puisque cette semaine, la Tribune Hebdo, donc est un journal hebdomadaire qui est distribué gratuitement dans plusieurs points de distribution à Tours, a consacré sa une justement aux violences conjugales et aux chiffres à l'échelle locale, en fait, en Indre-et-Loire. En fait, on apprend que parmi les 104 féminicides recensés depuis le début de l'année, il y en a 4 qui ont eu lieu en Indre-et-Loire. Ce qui permet, je trouve que ça permet vraiment de considérer que c'est un chiffre national et un chiffre très gros, mais à l'échelle locale aussi, bah, c'est une réalité qui nous touche tous et qui ça n'arrive pas qu'aux autres, quoi, malheureusement. Ou malheureusement, non, c'est triste aussi pour les autres, quoi. Mais voilà, et dans la Tribune Hebdo, on retrouve donc une double page sur justement les dispositifs qui existent à Tours et en Indre-et-Loire. Donc on a un premier article donc sur SOS Médecins, qui est une association avec une plateforme téléphonique pour écouter les victimes. Également un article sur les groupes de parole qui sont proposés aux victimes pour qu'elles se retrouvent entre elles et surtout en non-mixité, pour que la parole puisse se libérer, pour qu'elles puissent vraiment commencer correctement à avoir le droit à une thérapie. Ces groupes de parole, dans l'article, il cite le Secours catholique, qui propose ces groupes de parole. Et également, on trouve un petit article que j'ai trouvé particulièrement intéressant sur un dispositif qui s'appelle ATHOBA, A-T-H-O-B-A, proposé par l'association Entraide et Solidarité, et qui prend en charge des thérapies pour les personnes auteurs et autrices de violences conjugales. Et donc, l'article explique succinctement que ce sont des psychologues cliniciennes spécialisées du psychotraumatisme qui mettent en place ce dispositif, qui existe depuis plusieurs années, et qui a déjà fait ses preuves. On a jusqu'à 95% de non-récidive. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, puisque c'est la première fois, je trouve, où on mettait le focus, la responsabilité, enfin les conséquences de violences conjugales, on mettait le focus au bon endroit, c'est-à-dire à ceux qui ont la responsabilité, c'est-à-dire aux agresseurs et aux agresseuses. Et je pense qu'une grosse partie de la solution se trouve ici, et est trop souvent dévaluée, en fait. C'est, aller soigner les causes, anticiper, prévenir la non-récidive chez ceux qui sont avant tout responsables de ces agressions et quelquefois de ces crimes. On parle de féminicide, à savoir...
Non mais là on dit crime passionnel, tu t'es trompé.
Ça, j'en parle
après. C'est une blague. Et voilà, oui, pardon, j'ai...
Auprès des auteurs de violences conjugales. Et donc ATHOBA, c'est Entraide et Solidarité, c'est à Tours, ça se passe vraiment à Tours. Et l'article se termine toutefois par dire que... le gouvernement a bloqué les subventions de ce genre de dispositif à destination des auteurs, malgré le soutien de la préfecture et du procureur d'Indre-et-Loire.
Fatigue. Juste micro remarque sur ce que tu viens de dire, Merlin. Depuis le départ, on parle de violence des hommes sur les femmes, mais on n'oublie pas que les femmes peuvent être autrices de violence et que les hommes peuvent être victimes de violences conjugales aussi.
Voilà. Et qu'on en parle beaucoup moins, parce que je pense que c'est d'autant plus tabou qu'un homme vienne en disant « ma femme me frappe », je pense qu'on est quand même loin de ça, quoi.
Et pour revenir aussi sur ce qui se fait un peu en Indre-et-Loire, j'ai rencontré lors du forum du service civique Fabienne Colboc, qui est donc la députée de la circonscription de Chinon. Et elle nous a expliqué qu'avec son collègue Philippe Chalumeau, ils allaient mettre en place une sorte de Grenelle local, enfin sur le modèle du Grenelle national. J'ai vu que le planning familial avait repris l'information en disant qu'il y avait une conférence ou une réunion, je ne sais plus trop quoi, qui aura lieu le 19 septembre pour que plusieurs assos d'Indre-et-Loire viennent participer à ce Grenelle local afin qu'il y ait un projet qui se forme et qui se mette en place assez bien.
Ouais, le planning familial de Tours, je pense que les autres plannings aussi de... pas d'Indre-et-Loire, mais des autres... enfin, les autres, quoi. Participent au Grenelle. Après, c'est vrai que... bien sûr que le planning va saluer ça, mais voilà ce qu'on disait par rapport au budget, etc. Ils sont un peu... comme toutes les assos féministes, on va un peu rire, quoi, de se dire... ok, vous nous annoncez des trucs, mais en fait, vous l'avez déjà dit, et en fait, enfin... voilà, quoi. Fin. Il se passe pas grand chose, quoi, donc
Bah moi je suis pressée de voir ce qui va ressortir de ce Grenelle local. Et sachant que après avoir discuté avec Fabienne Kolbok, il y avait certaines choses qu'elle voulait mettre en place, comme la formation, pardon, des acteurs autres que commissariat et gendarmerie. Ouais. Elle voulait aussi former les DRH dans les entreprises.
Ouais.
Là, je sais pas trop comment me positionner autour de ça, parce que c'est pas du tout le rôle du DRH de recevoir la parole. Alors après, c'est bien qu'il soit au courant, parce qu'effectivement, ce qui se passe dans la sphère privé peut impacter, enfin peut dériver sur le travail, et qu'il y a un acteur extérieur à cette sphère privée qui puisse prendre le relais, pourquoi pas. Mais enfin, je sais pas, je suis un peu mitigée. Donc
moi, je trouve que c'est important. Peut-être que le terme formation, peut-être que prévention, c'est peut-être plus adapté. Mais je pense que voilà, si une femme victime de violence conjugale a encore le droit de travailler par son mari, je veux dire, parce que on peut aussi se faire séquestrer pour ne pas aller travailler. Je pense que du coup, le lieu de travail devient un des derniers endroits où il n'y a plus de parano, en fait. Il y a plus de violence, et du coup, en fait, peut-être que c'est le seul endroit libre où la femme peut se retrouver dans une situation où peut-être elle pourrait évoquer des choses. Je sais qu'il y a un sentiment énorme d'exclusion, où ça va être très difficile d'en parler à ses amis, à ses collègues. Peut-être que s'il y a une prévention, une cellule d'écoute ou une formation, en fait, de pas forcément des DRH, mais en fait de tout le monde, en fait, et que du coup on peut peut-être se dire merde, il se passe quelque chose, et poser la première étincelle de on est là et on peut faire quelque chose ensemble. Je sais pas, vous en pensez quoi, Merlin et Anaïs, ou pas?
Non, mais si, moi je sais pas par quel bout prendre ce truc, mais effectivement je pense que ce serait bien qu'on en parle de manière plus libérée, qu'on soit tous prêts, parce que comme disait Ophélie, en fait, quand t'es chez toi et que t'entends que tes voisins ils sont en train de s'engueuler, tu te demandes, moi j'ai le même problème chez moi, en fait, tu vois, j'ai un couple, tu sais pas si c'est qu'ils s'engueulent vraiment très fort, ou tu vois, tu sais pas comment réagir. Est-ce que tu vas... là, au final, c'est pas le cas, mais je me dis, si vraiment c'est le cas, je fais quoi? Je sors sur mon palier, j'ouvre la porte,
Tu te prends un meuble dans la gueule.
Je me prends une mandale dans la gueule. Enfin, c'est hyper compliqué. Enfin, c'est hyper compliqué à la fois. S'il y avait de la thune, ça le serait beaucoup moins, quoi, j'ai l'impression.
Oui. En effet, comme ça appartient à la sphère privée, on est toujours, en tant qu'extérieur, en tant que témoin, en tant que personne qui entendent des choses, quelquefois même jusqu'à chez soi, c'est très compliqué de savoir si on peut intervenir, quand on peut intervenir, si c'est pertinent d'intervenir. Et je pense que, en fait, ça c'est mon avis, le travail qui devrait être fait, il devrait être fait autour des personnes qui sont directement impliquées. Voilà, si des personnes victimes de violences, que ce soit sur l'échelle dont tu parlais, que ce soit même lorsqu'on tombe dans le jaune avant de tomber dans l'orange ou dans le rouge, si elles savent qu'il y a des plateformes d'écoute, que la parole peut être libérée sur ces sujets-là, qu'elles peuvent, dans des sphères extérieures au milieu conjugal, être écoutées, et en préservant leur anonymat, en leur proposant des solutions, en étant considérées aussi, je pense que ça doit être vraiment un travail englobant, entourant, voilà, un environnement sécurisant pour les personnes qui sont directement impliquées, parce que voilà, il suffit d'être juste à côté, d'être voisin, mais voilà, comme on est voisin et juste à côté de d'une sphère qui est la sphère privée, en effet, en tant que proche témoin, c'est trop trop compliqué de savoir si on peut intervenir, comment on peut intervenir.
Moi, je pense que j'ai lu plusieurs vues, des vidéos, tout ça, sur l'opinion publique par rapport à tout ça. C'est assez, assez glaçant, parce que là, tout le monde va se réveiller en se disant « Ah, les violences conjugales, etc. » Mais en fait, l'opinion publique, elle est assez mitigée là-dessus. Et moi, je trouve ça... Enfin, je pensais pas que c'était comme ça, que les gens pouvaient être si cons, mais bon, c'est pas grave.
Déjà, chaque jour est une nouvelle découverte.
Voilà, c'est ça. Mais déjà, d'un point de vue médiatique, on va parler souvent de crimes passionnels, mortes sous les coups d'eux, mais en
ça,
fait...
Ça, j'en peux plus. On dirait que c'est un hasard, quoi.
Ouais, c'est ça.
Elle a loupé une marche, elle est morte.
Voilà. Mais non, en fait, elle s'est juste fait tabasser jusqu'à mourir. En fait, on va remettre les choses dans leur contexte. Et j'ai vu des vidéos de gens qui, sincèrement, sont là. Bah, pourquoi elle part pas?
Oui. Bah oui. Quand elle part, elle meurt. C'est ça le truc, chouchou.
Et en fait,
je suis fatiguée.
En fait, voilà. Il y a un schéma qui a été fait qui s'appelle pour expliquer le cycle des violences conjugales, que je trouve hyper intéressant, qui part sur quatre points qui sont un cercle vicieux en fait. Le premier, ça va être vraiment un climat de tension dans le couple, donc ça va être pour l'auteur des reproches qui augmentent, la victime a peur de plus en plus. Après, on passe à la crise, l'auteur passe à l'acte. Mais passer à l'acte, ça veut pas forcément dire, le passage à l'acte, le premier passage à l'acte, il est pas je poignarde ma meuf, quoi. Il va être dans des violences verbales, physiques, morales, des dénigrements, violences psychologiques. La victime est dans une situation de tristesse, de colère, d'humiliation. Après, on passe dans une inversion de la culpabilité. Et du coup, la victime se sent coupable, elle a honte, elle doute, elle remet tout en question. Donc là, on va rentrer vraiment dans l'exclusion. Et une fois qu'on a fait l'inversion de la culpabilité, on passe dans ce qu'ils appellent la lune de miel, où l'auteur s'excuse, l'attention revient, on rentre un peu dans une logique de chantage affectif. La victime reprend de l'espoir, confiance, et quelque part replonge dans la relation. Donc on est vraiment dans une emprise psychologique qui fait que on perd la notion de la réalité. Et en fait, on se dit, ça va passer. Et dans dans la lune de miel, en fait, on peut refaire des projets de voyage, des projets d'enfants. Et en fait, ce cycle-là, c'est pas un mois, c'est des années. Ça commence par des mots, ça finit par des coups de couteau, mais ça peut être à l'échelle d'une vie, quoi. Et en fait, on s'en rend pas compte que elle a juste à partir, quoi.
Surtout quand il y a des enfants où ça complique vraiment les choses, quoi.
Il nous reste 2 minutes sur ce sujet-là avant de clore la discussion. J'ai une bonne référence, une bonne source à aller voir qui reprend justement le cycle que tu as décrit, Roman. C'est une vidéo sur YouTube d'une vidéaste qui s'appelle Marinette, qui est journaliste et militante féministe. Et justement, en fait, dans une vidéo qui s'appelle « Sauriez-vous reconnaître les violences conjugales ?», elle parle en fait de 5 grosses idées reçues sur les violences conjugales, et un petit bonus justement, donc en fait il y en a 6, mais le bonus c'est plus une idée reçue qui s'adresse, voilà, à ses collègues et ses collègues journalistes, au sujet de, tu l'as abordé, Annalise, de l'expression « morte sous les coups d'eux », mais voilà, sur les 5 idées reçues, les premières, donc qui concernent tout le monde et qui sont, enfin, où tout le monde peut tomber dans l'écueil, voilà, il y a le fait que les torts sont partagés, que c'était un petit peu la faute de la femme. Ça, c'est un truc qu'on entend très souvent lorsque dans l'opinion publique.
Elle n'a pas fait la machine à laver quand même. C'est quand même hyper énervant, quoi.
Il y a une idée reçue comme quoi l'agresseur, c'est malgré tout un bon gars, quoi. Quand je le rencontre, je me douterais pas que c'était un agresseur, tout ça. Et donc, c'est aussi quelque chose qui va venir nuancer et remettre en question ce que peuvent exprimer les victimes. Aussi, il y a l'idée reçue très forte que elle n'a qu'à porter plainte, la victime de violence. Si elle veut de l'aide, elle a qu'à porter plainte, tout ça, ou elle a qu'à partir. Ça, c'est la 4e idée reçue. Elle a qu'à partir. Pourquoi elle parle pas? Elle part pas. Elle est dans un contexte de violence et elle reste chez elle. Elle reste auprès de son agresseur, tout ça. Et voilà, elle explique pourquoi c'est des très mauvaises réponses à apporter à une personne qui est victime de violence conjugale. Et le dernier, dernière idée reçue, c'est que en fait, tu l'as dit lorsque tu parlais des crimes passionnels, c'est aussi un truc qui vient atténuer la gravité de la situation en disant ah mais c'est passionnel entre eux, ils s'aiment comme des fous, donc c'est normal que ça dérape tout ça machin. Cette vidéo est super, c'est sur YouTube, c'est fait par Marinette et moi je vous la conseille, voilà, ça elle est vraiment très bien construite et en plus bah c'est gratuit, c'est sur YouTube et
merci,
je vous invite à soutenir son travail puisque c'est vraiment d'une grande qualité. Avez-vous un dernier truc à rajouter pour finir cette discussion?
Si vous m'autorisez, oui. C'était juste pour vous parler d'une initiative sur Tours. Sur Instagram, il y a le compte On Arrête Tout Tours et Collège Féminicide Tours qui propose, si vous êtes militant ou vous êtes engagé dans ça et que vous voulez faire changer les choses à votre échelle, vous pouvez participer à des actions de collage qui ont lieu la nuit. Là, il y en a une dimanche 8, justement pour dénoncer tout ça. Donc il y a eu des petits slogans qui ont fleuri un peu partout dans Tours, comme « Aux femmes assassinées, la patrie indifférente »,« Papa, il a tué maman »,« Silence, il me tue », ou pour parler d'actualité, Stéphanie, égorgée par son ex, a joué les tours, donc pour faire le lien avec ce que tu disais, Merlin. Donc si vous voulez vous joindre au collectif, ça se passe sur Instagram, sachant que donc, ça a été fait, comme je vous disais, dans la nuit de dimanche à lundi, et que lundi après-midi, les employés de la mairie de Tours avaient déjà tout décollé.
Pardon. Ok. J'avais juste une recommandation culturelle. Alors, c'est pas le moment, mais tant pis. Je fais ce que je veux, je suis une déglingo. Donc, j'avais une recommandation culturelle qui est un film qui s'appelle Jusqu'à la garde, qui est sorti en 2018, ouais, qui a eu le César du meilleur film. C'est un film de Xavier Legrand qui raconte l'histoire d'un couple joué par Denis Ménochet et Léa Drucker. Alors, Denis Ménochet, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et il est très bon dans ce film, il est tellement bon que c'était très difficile à regarder. Alors ce film est formidable, je l'ai vu au studio avec Mélanie et Marion, à qui je fais un bisou, qui sont des membres du réseau aussi. Et en fait c'est la première fois, je crois, que je suis allée voir un film au ciné et que j'ai vraiment failli sortir avant la fin. Parce que je ne voulais pas savoir comment ça allait se terminer.
C'est horrible.
Mais je suis restée jusqu'au bout et ce film est vraiment très bien parce que donc ça parle de violence conjugale, ça je vous spoil, mais bon en même temps... Vu, j'en parle dans ce contexte-là. Donc, mais en fait, on voit que c'est très insidieux et on, enfin, en fait, juste même regarder juste la bande-annonce. Moi, je l'avais regardée. Elle dure quelques minutes et en fait, déjà, il y a un malaise, mais c'est terrible, quoi. Mais bref, ce film est vraiment génial et du coup, je trouve qu'il représente très bien. Enfin, il raconte une bonne histoire, quoi. Voilà.
Merci Anaïs. Un dernier mot, Roman?
Non, c'est bon.
Ok, super. Bon. C'est l'heure de changer d'air un petit peu, de souffler un petit peu après ce sujet un peu plombant. On va faire une seconde pause musicale. Donc cette fois-ci, il n'y a pas moyen que je me trompe. Le titre, c'est Squat.
Oui, on l'a fait.
Et l'artiste, le chanteur, les chanteuses, c'est Haiku Hens.
Oui.
C'est parti.
Uptight, son, you seem a little uptight. You're standing a little upright, son. You're standing a little upright.
You seem a little uptight, girl. You seem a little uptight. You're standing a little upright, girl. You're standing a little upright.
Squat, little.
Gives a fuck what you look like.
When you lost four moves and you got no game and you wanna cut loose.
Squat.
When you lost four moves and you got no game and you wanna cut loose.
Squat.
When you lose your cool and you got no shame and you wanna get rude.
Squat.
When you lose your cool and you got no shame and you wanna get rude.
You seem a little uptight, son. You seem a little uptight. You're standing a little upright, son. You're standing a little upright.
Uptight girl, you seem a little uptight. You're standing a little upright, girl. You're standing a little upright.
Squat a little. Squat a little. Squat.
Oh!
little uptight, son. You seem a little uptight. You're standing a little upright, son. You're standing a little upright.
You seem a little uptight, girl. You seem a little uptight. Tight, 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 tight.
Squat a little.
Des squats de Haiku Enhance sur Radio Campus Tour 99.5 ou radiocampustour.com si vous nous écoutez en podcast. Vous êtes toujours à l'écoute de Ménage-toi Simone, le premier épisode de la saison 2. Et on arrive sur la deuxième partie de notre émission, une partie un peu plus joyeuse, on vous rassure. On a parlé de trucs qui plombaient le moral juste avant. Maintenant, on va se concentrer sur des choses moins graves, mais tout aussi intéressante. On commence par une chronique, cette fois-ci proposée par Roman. Roman, courage.
Nous t'écoutons. On m'écoute, très bien. Eh bien, après toutes ces nouvelles plutôt effrayantes, je vous propose un moment de réconfort. Pas de conte pour enfants ou d'ASMR, désolé, mais aujourd'hui, on va parler d'amour. Vous êtes-vous déjà demandé à partir de quand, pourquoi, comment, qui, pour combien de temps vous alliez tomber amoureux ? Est-ce l'amour de votre vie, votre âme sœur, votre voisin, votre meilleur ami, un inconnu dans la rue, une rencontre imprévue ? Vous êtes-vous déjà demandé si nous pouvions être amoureux de plusieurs personnes à la fois ? Aïe aïe aïe. Polyamour, ça vous dit quelque chose ? Je vous entends déjà me poser 1000 questions sur l'étrangeté, l'impossibilité ou la rareté de la non-exclusivité. Et pourtant depuis toujours, de nombreux couples vivent au grand jour des amours libres. Colette, par exemple, célèbre écrivaine féministe du 19e, a vécu très longtemps dans ce qu'aujourd'hui on nommerait comme le polyamour. À ce titre, si vous avez la flemme de lire tous ses ouvrages, regardez le film de sa vie qui est plutôt éloquent. Qu'est-ce que la fidélité ? L'engagement ? Pour certains, c'est un mariage pour toujours jusqu'à la mort, toi seul. Pour d'autres, c'est fonder une famille, n'être amoureux que d'une seule personne, ou alors avoir une sexualité exclusive, ou bien tout se dire. Et si la fidélité, c'était le respect de ce qui a été convenu au sein d'un groupe de personnes ? Et si chacun, chacune, pouvait y mettre ce qu'il souhaite, suivre les papillonnages de son cœur, ou l'ouvrir tout entier avec singularité ? Et si tomber amoureux devenait la liberté de s'engager auprès de chacune de nos passions ? A-t-on toujours besoin de tout nommer, de tout cadrer ? Amour avec un grand A. J'aime la soupe et je t'aime. Notre merveilleuse langue française ne nous offre pas vraiment un panel réjouissant du verbe aimer. Et pourtant, dans certaines langues comme l'arabe, il y a 7 mots pour le nuancer. Et si la richesse d'aimer rendait chacun et chacune singulier sans jamais soustraire qui que ce soit ? Si on s'autorisait à tout aimer, à tout construire, à tout rêver ? Suis-je utopiste ? Oui, très certainement. Et pourtant en France et partout ailleurs, des centaines, des milliers de personnes se disent polyamoureux. Et si ensemble, on allait questionner tout ce que cela implique ? Le temps de cette chronique, bravons les peurs, bravons les interdits, les conventions, et repartons à zéro. Construisons de nouveaux champs des possibles. Sur Internet, vous trouverez pléthore d'articles, de chaînes YouTube, de podcasts, qui abordent le sujet. La youtubeuse de la chaîne La Carologie nous livre dans plusieurs vidéos de nombreux témoignages sur son parcours pour l'amour libre. Elle parle notamment de la jalousie, de combien ça a été dur de la déconstruire, de la comprendre, de l'accepter, de l'assumer, de la communiquer. Bref, la galère quoi. C'est un des sujets les plus récurrents auprès des polyamoureux. Nous pourrions essayer de prendre la jalousie comme un cadeau. Si, si, je vous assure, un cadeau. En fait, ce pourrait être un petit gyrophare qui s'allume quand vous vous sentez en danger. S'allume-t-il parce que l'autre a eu tort ? Où est-ce qu'il s'allume pour appuyer là où ça vous fait mal ? Un jour, votre amoureux s'entiche de la voisine du bas. Aïe, douloureux ? Mais pourquoi ? Avez-vous peur d'être inférieur, détrôné, qu'il ne vous regarde plus ? N'avez-vous pas confiance en vous ?
C'est flippant de suivre la jalousie, la questionner jusqu'à avoir le fin fond des bonnes raisons. Mais questionner, c'est déjà avancer et déconstruire nos représentations. Merci, jalousie, de me dire ce sur quoi je dois me pencher. Et si on en parlait ensemble, avec des amis, avec des amoureux, pour se rassurer ou pour relativiser? En parallèle de la jalousie, nous avons ce qu'on appelle la compersion, dont nous parle la youtubeuse Nina Luca. C'est en gros le fait de se réjouir, d'être empathique envers l'amour, le bonheur, les sensations de la personne que nous aimons. Regarder son amoureux tomber amoureux de quelqu'un et se dire que c'est beau, que ça lui va bien, l'aimer encore plus, espérer que cette nouvelle personne sera respectueuse et l'aimera avec tout autant de justesse que vous. L'autre a la liberté de vous aimer vous, et un autre, et peut-être un ou une autre encore. Il est libre de vous aimer, mais de partir aussi, alors s'il vous aime toujours, n'est-ce pas encore plus fidèle, encore plus engageant? Parce qu'il est là, il revient, il vous partage ses joies, ses bonheurs, pour faire grandir les vôtres. Je pense qu'il y a une question importante et qui concerne énormément de choses et de manières alternatives de vivre. C'est le regard des autres. Le polyamour est-il de la polygamie? Impossible, destructeur. La polygamie est un régime matrimonial où un individu a plusieurs conjoints. Le libertinage, par exemple, est le fait d'avoir des échanges uniquement sexuels avec différentes personnes. Mais le polyamour est le fait d'aimer librement et ou d'être en couple chacun avec plusieurs personnes, à des échelles et des façons qui sont propres à chacun et chacune. Il y a autant de manières de s'aimer que d'êtres humains sur Terre. Impossible ? Pourtant, plein de gens se questionnent et en font l'expérience. Des groupes se rassemblent dans beaucoup de villes en France et à Tours aussi pour échanger, partager, comprendre nos normes sociales et nos normes sentimentales, pour trouver un chemin singulier. Impossible, non. Difficile parfois, peut-être. Je ne suis pas sûre que ce soit plus difficile que de la physique quantique. Parfois, faire ce choix seul ou à deux peut nous surprendre et nous ouvrir des voies inconnues. Destructeur, me direz-vous ? Il semble que cela puisse faire mal, parce que c'est nouveau, c'est inconnu, qu'on peut être mort de trouille, mais si on part du principe que chacun est consentant, ça ne veut pas dire que c'est facile pour tout le monde. Alors, nous sommes plus libres d'exprimer nos ressentis, nos difficultés, de les surmonter sans nos fiertés quotidiennes, ensemble, tous ensemble. Je vous ai parlé de chaînes YouTube, comme La Carologie, Nina Luca, mais il y a aussi Esther, le journal de Mademoiselle en parle, le site polyamour.info, des livres tels que La salope éthique, très USA mode d'emploi mais plutôt instructif, le livre Compersion de Hypatia from Space, des personnalités telles que Beauvoir et Sartre et encore plein d'autres. Et si on réapprenait à s'aimer?
Merci, elle est trop bien cette chronique, Romane.
Merci, oh là là, ça
syndrome de l'imposteur au placard, c'était très très bien.
quelle fraîcheur, quelle bouffée d'air frais. Merci. Merci beaucoup, ça fait...
Ouais, enfin, il y avait une chape de plomb qui était un peu tombée après la partie violence conjugale, là c'est bon, on est plus... ça va, plus détente.
Détendu pour la suite et fin de notre émission où on va enchaîner donc sur la rubrique Tout n'est pas perdu, où on rassemble et on vous propose, toujours avec des good vibes, les bonnes nouvelles, les bonnes nouvelles concernant l'avancée de la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes. On a de nouveau chacun, chacune, quelque chose à apporter, quelque chose à présenter dans cette rubrique-là. Qui souhaite commencer?
Moi, je veux bien.
Mmh. T'écoutons,
alors, Alice. Merci, Romane. alors, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, comme dirait l'autre. Moi, je vais vous parler de l'équipe de France féminine de volleyball. Parce que si vous ne le saviez pas, en plus d'être une féministe briseuse d'ambiance, je suis aussi volleyeuse. Et donc, il y a eu l'Euro de volley féminin du 23 août au 8 septembre, qui était organisé par plusieurs pays, donc la Turquie, la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne. L'équipe de France y était, alors que ça faisait depuis 2013 qu'on n'y était pas, sachant que c'est tous les deux ans, bon, on a loupé pas mal d'éditions. Et tous les matchs de l'équipe de France ont été diffusés en direct sur le site internet du journal L'Équipe. Alors ok, c'est pas la télé, mais n'empêche que c'était gratuit sur internet, donc accessible pour presque tout le monde. Donc pour moi, c'était une grande joie de pouvoir voir mon sport diffusé. Alors, on n'a pas réussi à sortir des phases de poule, mais on a quand même gagné 3-2 face à la Bulgarie, qui est une équipe qui est 16e au classement de la FIVB, alors qu'on est, nous, 40e. Donc, bon, voilà, c'était un match épique. Et on n'est pas passé loin non plus de battre les Serbes, qui sont championnes du monde. Donc moi j'étais vraiment super contente de les voir jouer ensemble et je suis aussi très contente de voir que ma fédération sportive fait des efforts pour pousser le volley au féminin sur le devant de la scène, puisqu'en fait il y a les JO en 2024 en France et donc forcément l'équipe de France sera qualifiée et du coup ils parient vraiment sur des très jeunes joueuses qui ont 20-22 ans pour avoir une génération de ouf pour 2024. Et du coup il y a le Émile Rousseau, le sélectionneur des Bleus, qui disait avant cet Euro: ce sont les premières étapes, j'ai plusieurs filles de 22 ans qui auront 27-28 ans en 2024, elles sont parfaitement dans les clous. Il faudrait qu'elles jouent chaque année des matchs comme ça pour mettre à la poubelle l'idée de jouer contre des monstres. Ces filles à poil dans les douches, c'est pareil, deux pieds, deux jambes, deux genoux, pas de différence, on ne va jamais se rapprocher d'elles si on ne peut jamais les affronter. Ce tirage est une vraie chance, on va peut-être se prendre des tôles trois fois, mais pour les filles, cela va s'avérer très enrichissant. Quand on aura joué 4 fois contre Tijana Bošković, qui est une joueuse serbe championne du monde, on se dira la première fois que c'est un mammouth, la deuxième fois un éléphant, la troisième fois un hippopotame et la quatrième qu'elle joue très bien, mais il y a quand même moyen de faire quelque chose. Donc voilà, je suis très contente, elles sont vraiment en mode guerrière et j'ai trop hâte d'être en 2024 pour les voir jouer au JO. Voilà.
Oh bien. Je nous renvoie donc à notre première émission de Ménage-toi Simone où on parlait en sujet principal du sport féminin.
Yes.
Et voilà, vous pouvez alors comprendre notre engouement et notre joie d'avoir de telles nouvelles, une telle nouvelle concernant le sport féminin, notamment pour le sport que tu pratiques, Anaïs, le
yes.
volleyball. Merci. Qui veut enchaîner?
Je vais prendre le relais.
Ophélie.
Moi, je vais vous parler du congé paternité. Donc, j'en avais déjà parlé dans une émission. C'est un sujet qui me tient très à cœur. Et là, il y a deux petites nouvelles qui m'ont fait plaisir. Tout d'abord, une à l'international, en Autriche. Auparavant, les pères pouvaient demander le congé paternité, mais l'employeur était en droit de refuser. Ça faisait que seulement 8% des pères étaient concernés, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Depuis le 1er septembre 2019, tous les papas peuvent maintenant accéder à un congé qui est un droit, donc les employeurs ne peuvent plus refuser, et ce congé est d'une durée d'un mois. Et il est aussi ouvert aux couples homoparentaux, donc ça je trouve que c'est une nouvelle géniale. Et ce qui est aussi très important dans l'instauration de ce congé, c'est que ce droit, quand il a été discuté au début de l'année 2019, il a rallié plusieurs partis d'opposition, donc l'extrême droite, les sociodémocrates et même les écologistes, les Verts, en Autriche se sont ralliés pour ce droit, et je trouve ça plutôt pas mal qu'il y ait des partis qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui se rassemblent pour quelque chose
d'assez
important.
Pour ça, surtout,
important.
Ça serait surprenant,
voilà.
je trouve.
C'est ça.
Bonne nouvelle, du coup.
Exactement. Et du coup, ouais, je suis contente. Alors, je rappelle qu'en France, le congé paternité est de 11 jours plus 3 jours de naissance, donc il est au total de 14 jours, comparé à d'autres pays
quoi.
Où, voilà, en Autriche, il est de 1 mois. Et du coup, donc ça c'est pour faire le parallèle avec ce qui se passe en France, il y a certaines entreprises qui ont prévu de proposer des congés plus longs que ce que la loi propose, comme l'entreprise Kering, qui à partir du 1er janvier 2020 va accorder 14 semaines de congés paternité rémunérés à 100% pour tous ses employés hommes.
Wow.
Et enfin ça c'est juste parfait en fait, faudrait que le gouvernement se rallie sur ces entreprises. Et il y a aussi déjà Ikea et Ubisoft qui proposent des congés paternité de 1 mois, et Aviva, qui est une entreprise d'assurance, de 10 semaines. Donc voilà, en fait, c'est un petit peu les entreprises privées maintenant qui prennent en charge ce congé. Et après, à voir si l'État va s'aligner dessus, pardon.
À la fois c'est cool, à la fois que ce soit le privé qui tire le truc vers
oui.
le haut, bon. Voilà.
Ouais, tant que ça avance,
ça avance.
Bien,
pardon, je suis relou.
Merci Ophélie pour cette info réjouissante malgré tout. Est-ce que Roman, tu veux enchaîner s'il te plaît?
Ouais, alors moi je vais vous parler encore une fois d'un truc qui est en cours de validation, enfin j'espère. Le 11 septembre, l'ouverture de la PMA aux couples lesbiens et aux femmes célibataires a reçu le premier feu vert. Et donc, est ouverte une commission spéciale pour faire avancer les choses par l'Assemblée nationale. Donc j'ai envie de dire un gros enfin, parce que c'était quand même un peu le truc qui avait été vendu aux campagnes présidentielles. Donc voilà, nous sommes en 2019, il était temps. Donc la suite à partir du 24 septembre, parce que c'est une première victoire, je dirais, un premier feu vert, on va dire. On ne crie pas encore hurrah, on n'est pas au bout de nos peines, je pense. Donc il est donc question de modifier l'article 1 sur la procréation médicalement assistée pour faire modifier l'évaluation médicale et psychologique pour que ça ne prenne plus en compte le statut marital, l'identité de genre et l'orientation sexuelle des personnes qui demandent la PMA. Moi, ça me pose... Donc, je suis ultra contente, il y a zéro souci là-dessus. Il y a quand même quelque chose qui m'interroge, c'est que toutes les femmes hétérosexuelles, célibataires et lesbiennes pourront avoir accès à un don de sperme pour la PMA et... est remis en cause la loi sur l'anonymat pour les PMA, où, à la demande de l'enfant, à sa majorité, l'identité du géniteur pourra être révélée. Moi, ça me pose énormément de questions, parce qu'on fait ça pour la PMA, mais par exemple, donc on fait ça dans un cas de don de sperme, où c'est un homme qui va donner de lui pour procréer, mais dans le cas de don d'ovocytes où le don est fait par une femme, on n'est pas encore remis en question la question de révéler l'anonymat. Donc je me demande pourquoi, au moment où on ouvre la PMA aux femmes lesbiennes et aux femmes célibataires, pourquoi la question devient quasiment obligatoire de savoir qui est le géniteur. Est-ce que c'est une question de on ne peut pas faire sans père, un peu insidieuse, ou est-ce que c'est juste une question d'avoir accès à ses origines? Moi, j'ai pas la réponse et je n'ai pas forcément un avis tranché sur la question, mais juste le parallèle entre les deux me mitige un peu mon engouement. Donc voilà.
Bien. Merci Romane. Je crois que je viens de trouver ma recommandation culturelle en t'écoutant. Ça a fait tilt dans ma tête et en fait...
Il a préparé l'émission, ne vous inquiétez
yeah
pas.
En fait, j'avais un doute et je pensais recommander de nouveau la vidéo YouTube dont j'ai parlé dans la discussion, mais là, en t'écoutant parler de PMA, vous découvrirez ça donc après la troisième pause musicale. En attendant, moi j'ai une bonne nouvelle aussi, quelque chose à ajouter à cette rubrique « Tout n'est pas perdu ». Je vais vous parler de la Nouvelle-Zélande et vous allez voir qu'en Nouvelle-Zélande, ils sont vraiment dans un autre bail concernant l'égalité femmes-hommes. Pour tout comprendre, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler un peu de moi. Il y a quelques mois, j'ai appris que mon grand frère allait tout plaquer de sa vie en France pour aller vivre en Nouvelle-Zélande un an à Auckland. Il est parti début septembre. Il a pris l'avion et puis il est parti pour 12 mois. Et donc, on avait déjà l'information depuis quelques mois. En fait, j'avais déjà cette information au début de l'été. Ça, c'est une première information. Ok.
Merci, merci.
Deuxième information, au mois d'août... sur internet je trouve un article qui est beaucoup partagé, beaucoup relayé et qui parle d'une séance au parlement néo-zélandais un petit peu anodine, anecdotique, où en fait il y a eu un bébé dans l'assemblée et en lisant cet article en fait on apprend que voilà, ce bébé qui se retrouve dans l'assemblée, donc qui s'appelle la chambre des représentants en Nouvelle-Zélande, ce bébé c'est le bébé de Trevor Mallard qui sortait tout juste de congé paternité. Et en fait je sais pas de combien de temps est le congé paternité en Nouvelle-Zélande, mais voilà, il était sûrement un peu court et le bébé était sûrement encore un peu trop jeune, et donc n'ayant pas d'autre solution pour s'occuper de son nouveau-né, le papa l'a apporté sur son lieu de travail, c'est-à-dire dans la chambre des représentants.
Trop cool.
Et donc on voit plusieurs tweets, plusieurs images, plusieurs photos où le bébé est bercé par plusieurs autres députés. Il est même il y a même le président de l'Assemblée qui lui a donné le biberon.
C'est trop bien.
les différents représentants partagent qu'en fait le fait de bercer le bébé, ça a vachement apaisé les discussions et qu'en fait, ça a aussi permis d'un petit peu reconsidérer ce pourquoi ils se réunissaient tous les jours, en fait, l'action qu'ils menaient au quotidien pour le peuple néo-zélandais. Un détail aussi intéressant sur ce bébé et ce papa en particulier, c'est que c'est un bébé qui est né par GPA, car le couple du député travailliste qui a ramené son bébé, qui s'appelle Tamati Kofei, est un couple homosexuel. Et du coup, la GPA est autorisée en Nouvelle-Zélande et je reparle de nouveau de représentativité, mais il y a jusqu'à un député qui a eu recours et qui a même rapporté son bébé au sein de la Cour des représentants. Donc voilà, deuxième info, ça arrive pendant l'été, ça arrive le 21 août, et là je me dis, oh, la Nouvelle-Zélande, trop cool en fait, trop génial. Et là, ça tilte dans mon cerveau, je sais que mon frère va partir en Nouvelle-Zélande, et là, plein de questions viennent à mon esprit, mais comment ça se passe la politique en Nouvelle-Zélande? Quelle forme de gouvernement, quelle forme d'élection, quelle forme de représentativité, tout ça. Alors, je m'empresse d'envoyer quelques questions à mon frère, et là, mon frère, connaissant un petit peu mes centres d'intérêt, me scotche. En parlant justement du gouvernement néo-zélandais. En fait, la Nouvelle-Zélande fait partie du Commonwealth, qui est donc une grande coalition de nations et d'États qui formaient autrefois l'Empire britannique. Et donc, ils sont tous un petit peu sous la souveraineté de
la reine
Elisabeth II. Et voilà, donc politiquement, en fait, ce qui se passe en Nouvelle-Zélande, c'est un petit peu ce qui se passe aussi au Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'il y a, il y a pas une reine pour le coup, mais il y a une représentante de la reine en Nouvelle-Zélande. C'est un poste qu'on appelle gouverneur général. Et après, il y a un premier ministre qui gère la politique et qui est un petit peu l'équivalent du chef de l'exécutif dans notre République française à nous. Et du coup, mon grand frère, il m'a informé que le gouverneur général actuel, c'est une femme, c'est Patsy Reddy. Ce n'est pas la première femme qui occupe cette fonction, c'est au moins la troisième. Je ne vais pas aller chercher beaucoup plus loin, mais c'est au moins la troisième. Et le premier ministre est une première ministre. Et non plus, c'est pas la première femme à occuper cette fonction, mais elle particulièrement, celle qui occupe la fonction actuellement, s'appelle Jacinda Ardern. Et en fait, vous l'avez sûrement vu sur des écrans de télé, puisqu'en fait, elle s'est beaucoup exprimée lorsqu'il y a eu des récents attentats à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Et naturellement, elle a dû prendre la parole au nom du peuple néo-zélandais pour condamner ces actes-là, tout ça. Et donc, voilà, c'est peut-être par ce biais-là que vous savez à quoi elle ressemble. Donc, Jacinda Ardern, elle a pris ses fonctions le 26 octobre 2017. Elle avait alors seulement 37 ans. C'est la troisième femme à occuper cette fonction. C'est la plus jeune personne à occuper la fonction de première ministre en Nouvelle-Zélande. Et également, fait incroyable aussi, c'est une femme qui rentre dans l'histoire, puisque c'est seulement la deuxième femme de l'histoire à donner naissance pendant son mandat de première ministre. La première, c'était Banazir Bhutto. Je crois que ça se prononce comme ça. C'était une Pakistanaise. C'est une femme aussi fascinante. Lorsque j'ai fait des recherches sur elle, je pense que je vous en parlerai une prochaine fois, puisque vraiment son histoire est passionnante. Et voilà, moi je voulais vous parler de Nouvelle-Zélande aujourd'hui, parce que c'est vraiment ils sont vraiment, je pense, beaucoup plus en avance que nous sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, petite information supplémentaire anecdotique pour compléter tout ce que je suis en train de vous raconter, la Nouvelle-Zélande est aussi connue pour être le premier état à avoir donné le droit de vote aux femmes le 26 novembre 1893.
Oh, absolument.
Eh bien, à la fin de l'émission, nous faisons tous nos valises et nous partons rejoindre le frère Benjamin en Nouvelle-Zélande.
Mais tu te demandes pourquoi c'est aussi simple là-bas et chez nous c'est autant compliqué. Enfin bon, bref, c'est des spécificités après.
En effet, gros big up à mon grand frère, je t'embrasse très fort, j'espère que ton premier mois en Nouvelle-Zélande s'est très bien passé, je pense que tu kiffes grave.
Bah oui, tu m'étonnes.
Bisous. Voilà pour les bonnes nouvelles. Donc on va enchaîner avec la troisième et dernière pause musicale de notre émission, avant de conclure par les recommandations culturelles et aussi un petit agenda des événements qui se passent sur Tours en lien avec notre thème, celui de l'égalité entre les femmes et les hommes. Troisième et dernière pause musicale, le titre s'appelle SLT, l'artiste s'appelle Suzanne. A tout de suite.
Tu vas au boulot, tu marches seul. À la hauteur du H&M, y'a un type qui gueule. Eh, salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour le 4h. T'es si appétissante, je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter. Comment ça, t'as pas le temps? Pas célibataire, tu sais, moi je suis pas jaloux. Viens dans mon lit, ça va te plaire. Aussi faut arrêter de te plaindre, là tu l'as bien cherché. T'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi c'est dangereux, pire que le mal incarné. Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé. Sauf, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche sur le trottoir d'à côté. T'es une pouf, c'est devenu courant de l'entendre. Trois fois par journée, t'as un hume, peut devenir violent si tu donnes pas le vrai. Bats-toi, fillette. Bats-toi, fillette. T'es au boulot dans la réserve. Tout le monde est parti manger. Le patron t'appelle dans son bureau. Deux minutes pour discuter. Salut Caro, aujourd'hui t'es ravissante. J'aimerais t'inviter à dîner un soir où ma femme est absente. Ouais, je sais que t'as un mec, mais ça c'est pas gênant. Ton joli décolleté me dit que t'es plutôt partante. On pourrait faire ça ici. Tout le monde est parti, ça fait longtemps qu'on se connaît. Tu vas quand même pas refuser. De toute façon, si tu dis non, moi j'entendrai un oui. Tu diras que je suis con, je plaiderai ton hystérie. Tu serais pas la première passer sous mon bureau. Les filles comme toi font moins les fières quand elles veulent garder leur boulot. Alors maintenant tu vas te taire, t'en diras pas un mot. Si tu veux garder ton salaire pour nourrir tes marmots. Souffle, serre les dents comme une dab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche dans couloir d'à côté. T'es une pouf, c'est devenu courant de l'entendre trois fois par journée. Un gentil peut devenir méchant, faut pas croire au Disney. Va-toi fille. T'es enfin chez toi, tu te poses sur le canapé, t'allumes l'ordi, t'as un message instantané. Hey, salut l'ami, c'était vraiment très sexy, on pourrait faire connaissance, je cherche un plan pour la nuit. Quand j'ai vu ton profil, je suis tombé direct amoureux. Du coup, je t'envoie une toffe de moi, ma tub et un cœur bleu. Ce que j'ai le plus aimé chez toi, c'est ton regard de chienne qui attendrait de bouffer depuis au moins une semaine. Je suis sûre que t'es du genre à dîner étoilé, mais moi je payerai même pas pour des nems à volonté, parce que t'en vaut pas la peine. De toute façon, t'es comme les autres. J'ai vu que t'avais lu, mais bien sûr, tu fais la mort parce que tu te crois au-dessus. Tu t'es pris pour Rihanna, quand je serai en bas dans ta rue, on verra ce que tu feras. Souffle, serre les dents comme une dab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche dans couloir d'à côté. T'es une pouf, c'est devenu courant de l'entendre trois fois par journée. Un gentil peut devenir méchant, faut pas croire au Disney. Votre fille est...
SLT de Suzanne sur Radio Campus Tour. Radio Campus Tour 99.5 ou bien radiocampustour.com si vous nous écoutez en podcast. C'est toujours Ménage-toi Simone, le premier épisode de la saison 2, l'émission de septembre 2019. Dernière partie de notre émission. Donc on enchaîne toujours sur une bonne vibe, malgré le propos de cette chanson. Un petit peu, bon, vous l'avez entendu, plombant. Mais c'est pas grave, on enchaîne avec des recommandations culturelles. Ils nous ont bien fait rire pour la plupart, je crois. Ou pas toujours, à ce que je vois là sur le planning.
Je commence comme ça, je vous laisse rattraper l'ambiance après.
Ok,
allez.
Je fais juste un aparté pour revenir sur le sujet des violences conjugales. Donc moi, ma recommandation culturelle, c'est un album pour enfants, entre guillemets, parce que le sujet est quand même pas non plus hyper... voilà. Donc il s'appelle Les Artichauts, l'édition de Vive Voix. Donc c'est un texte de Momo Géraud et d'illustration de Didier Jean Ezad. Donc ce livre parle des violences conjugales vues sous le regard d'une petite fille par rapport à ses parents. Donc je vous lis la dernière de couverture. Ce soir, nous mangeons des artichauts. Je suis inquiète. Il n'aime pas beaucoup les artichauts. Quand j'ai su que maman en préparait, j'ai pensé que ça allait faire des histoires, mais je n'ai rien dit. Je me suis assise à ma place sagement et j'ai attendu. Peut-être que ce soir, il ne se passera rien. Voilà, je vous laisse rattraper le...
Ok.
Alors, attends, je me corrige tout de suite et puis je préviens aussi les auditeurs, les auditrices, c'est pas du tout marrant les recommandations culturelles qu'on a aujourd'hui. C'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Mais voilà, accrochez-vous, puisque si ta recommandation donc parle de violence conjugale, vue par donc les yeux d'enfant...
Ouais, d'une petite fille, ouais.
La suite aussi est pas super. Anaïs.
Moi, si ça va, franchement. Alors moi, j'ai une recommandation culturelle et un big up. Alors, la recommandation culturelle. Cet été, je suis partie en vacances et quand je pars en vacances, à la plage en l'occurrence, je prends le temps de rattraper tous les livres que j'ai pas eu le temps de lire pendant l'année. Et il y en a un que j'ai lu qui est de Titiou Lecoq et s'appelle Libérée, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale. Il est trop bien, j'ai rigolé vraiment. Alors pour vous lire le quatrième de couverture, un jour je me suis demandé pourquoi est-ce moi qui ramasse les affaires qui traînent. Je n'ai trouvé qu'une seule réponse, parce que je suis une femme qui vit avec un homme et deux enfants et que conséquemment les corvées c'est pour ma gueule. Être une femme, ce n'est pas seulement l'idéal de minceur et de cheveux qui brillent, c'est le souci permanent des autres et du foyer, c'est être sans cesse ramenée à la saleté, aux tâches, à la morve. L'égalité serait déjà là, mais les femmes conservent la conviction intérieure qu'elles doivent s'occuper de tout et de tout le monde et d'elles en dernier s'il reste 5 minutes à la fin de la journée, de leur triple journée pardon. Du coup j'ai trouvé vraiment ce livre ouf parce que à la fois Titiou Lecoq est quand même vachement drôle, donc déjà elle a surnommé ses enfants Curly et l'autre j'ai oublié mais bref, Tétard et Curly, donc c'est très bon, ça m'a fait marrer. Donc c'est vraiment très marrant, elle parle de son expérience perso qui part d'un jour où elle a vu une chaussette sale traîner et en fait elle s'est dit mais pourquoi elle est là et pourquoi c'est encore moi qui vais devoir la ramasser. Donc elle parle de son expérience perso mais en même temps elle se pose plein de questions, c'est hyper bien documenté. Donc elle parle du fait que elle parle du fait que ça, la sphère publique, la sphère privée, où est la place des femmes, celle des hommes. Elle parle de à quel moment, il y a même des moments où ça a été politisé en fait, le fait que les tâches ménagères soient pour les femmes, quand il y a eu toute cette période de mine ouvrière dans le Nord notamment, les femmes devaient tenir le foyer correctement pour éviter que leur mari aille se pinter la gueule au bar le soir, donc fallait que le logis soit agréable pour qu'il ait envie d'y revenir en gros. Enfin bon bref, c'est vraiment trop bien, donc je vous conseille ce livre qui du coup est aux éditions Fayard et qui coûte 17 euros, mais que je pense vous trouverez bien en bibliothèque à un moment donné. Je crois qu'il sort en poche là bientôt. Donc voilà, très bon livre. Et le big up, il est pour Laurel, qui est une illustratrice, autrice que j'aime beaucoup, qui avait fait plusieurs projets sur Ulule de BD en auto-édition. Oui, forcément, il faut que je parle de BD, sinon c'est pas drôle. Donc elle avait déjà un peu cassé Ulule parce que ses projets avaient cartonné. Et du coup, là, elle sort sa BD qui s'appelle Californide. Donc en fait, elle sort depuis plusieurs mois. Les pages sortent gratuitement sur Internet en lecture libre, mais du coup elle va sortir un bouquin. Donc elle raconte l'histoire de sa famille qui plaque tout pour aller vivre aux États-Unis en Californie, et elle raconte entre autres sa grossesse aux États-Unis. Et donc elle demandait 9000 euros et une semaine plus tard on en est rendu à 67 515 euros, yeah, c'est-à-dire 750%. Et donc il reste une vingtaine de jours pour participer encore d'ici la fin septembre, donc je vous invite fortement à aller regarder ce projet. Voilà.
Incroyable. Merci Anaïs.
De rien.
Ophélie, tu y vas ?
Oui, alors moi je voudrais vous parler d'un compte Instagram qui s'appelle Orgasme et moi, donc orgasme au singulier tiré du 8 et tiré du 8 moi. Il est tenu par une certaine Charline qui va bientôt être révélée au grand jour parce qu'elle participe à une interview pour Brut. Donc si vous tombez sur son interview, vous allez voir sa petite tête. J'aime énormément ce compte Instagram parce qu'il est ultra bienveillant, ultra inclusif et il parle, vous l'aurez peut-être deviné, de sexualité. Sexualité dans vraiment sa globalité. Elle essaye de déconstruire tout le mythe phallocentré quand elle parle de sexualité. Elle inclut les préliminaires. D'ailleurs, elle dit que le mot préliminaire, elle déteste ce mot parce que c'est un acte sexuel à part entière comme la pénétration. Elle déconstruit un petit peu tout ça, le plaisir masculin. Elle a même réussi à créer une sorte de communauté qu'elle appelle les MMM, donc meufs, mecs, merveilleux, qui sont, selon la définition, là pour autoriser le partenaire à prendre autant de plaisir que soi, enfin remettre la relation des deux partenaires ou plus au centre de l'acte sexuel. Et puis elle parle de sujets dont on n'a pas forcément l'habitude. Ça peut aller du slut-shaming, vraiment des sujets d'actualité, ou plus précisément l'orgasme mammaire, les premières fois, parce qu'elle parle de première fois, pas je perds ma virginité avec une pénétration. C'est pas forcément ça la première fois, ça va être la première fois que je vais embrasser quelqu'un, la première fois que je vais oser faire quelque chose d'autre, enfin voilà. Elle parle aussi de squirting, de BDSM, elle met un point vraiment sur l'hygiène et puis toute la protection qu'il faut pour l'acte sexuel, et puis elle est très inclusive, hein, elle parle autant de rapports hétérocentrés que de rapports hétérosexuels, pardon, que de rapports homosexuels. Enfin, vraiment, je vous conseille ce conte. Elle est pas là pour vous donner des techniques comme le conte Tajoui peut, enfin non pas Tajoui, mais j'ai perdu le conte, mais on le rajoutera sur la petite description de l'émission. Yeah. Mais elle est là pour relayer les témoignages des personnes, et vraiment vous pouvez apprendre plein de choses. Et puis je mets un petit warning, par contre ça peut être très chaud les stories qu'elle publie, donc si
moins de 18 les gars,
voilà, c'est ouais. Ça
ne pas regarder au boulot quoi.
Si vous voulez, enfin vous pouvez hein, mais c'est
à fond les enceintes, voilà. Vous regardez les stories,
c'est ça.
Yes.
Exactement. Bon, je vous conseille en tout cas d'aller faire un petit tour parce que c'est très intéressant.
Ok,
d'accord,
merci.
Oui, comme tu le disais, on en parlait juste avant d'allumer les micros. On va le dire maintenant, maintenant que les micros sont allumés pour nous y engager, on va maintenant dans chaque poste, en même temps que le podcast de l'émission, mettre les références de nos recommandations culturelles. On va pas sourcer tout ce qu'on raconte dans toute l'émission parce que c'est énormément de travail, mais au moins les recommandations culturelles, on va vous mettre des petits liens vers des plateformes pour acheter les bouquins dont on vous parle, ou bien des liens vers les émissions ou les vidéos qu'on recommande, puisque aussi ça nous permettra à nous de tenir ça à jour pour pas qu'on se répète et qu'on vous propose deux fois la même chose. Donc là, sur le compte Insta dont tu as oublié le nom, Ophélie, on mettra ce dont tu parlais sur la page, en même temps que sur la même où vous retrouverez le podcast de l'émission. Donc moi, finalement, ma recommandation culturelle, j'y ai pensé lorsque tu parlais de dons d'ovocytes, et donc voilà. Je ne change pas vraiment. Pareil, si Anaïs parle toujours de BD, moi je parle toujours de podcast. Et donc moi je vous recommande une petite série audio qui est produite par arteradio.com.
Ah ouais, je l'ai écoutée.
Et série audio réalisée par Claire Fégreux.
Oh, oui. Bah, j'ai pas écouté, mais je la connais, je l'aime beaucoup.
La série audio s'appelle Plaisir d'offrir. C'est six épisodes. Six épisodes qui font en moyenne entre un quart d'heure et 20 minutes chacun. Et voilà, et donc c'est Claire Fégreux, enfin Claire avec un K, qui raconte son périple pour donner ses ovocytes, alors que c'est d'une simplicité extrême lorsqu'un homme veut donner ses spermatozoïdes. Et là, elle raconte toutes les démarches, tous les traitements, tous les rendez-vous médicaux qu'elle doit faire. Pas seulement médicaux où on va lui faire des piqûres, lui appliquer des traitements ou quoi, mais aussi les rendez-vous avec des psychologues. Avec des gynécos, etc. Pour savoir si elle est sûre de son choix, etc. Et voilà, et puis forcément, Claire, elle n'est pas son coup d'essai pour réaliser des séries audio, et donc c'est ponctué de beaucoup d'anecdotes personnelles, de beaucoup d'humour, de beaucoup de blagues environnantes au premier propos de la série. Là, notamment, il y a une histoire de poule, je vous en dis pas plus, mais c'est très très drôle, parce que elle raconte que sa sœur a des poules.
Passionnant.
Voilà. Et ça vient ponctuer agréablement son propos. Et donc voilà, ça se met dans les oreilles pendant vos déplacements, pendant vos trajets, tout ça. Ça s'écoute très bien, c'est très drôle, ça s'appelle Plaisir d'offrir. Vous retrouverez ça sur arteradio.com. Et voilà, la première recommandation culturelle que j'avais en premier lieu, c'était une simple vidéo de 2 minutes 44 sur YouTube. C'est une vidéo que vous retrouvez sur la chaîne YouTube de Blue Seed Studio, qui est le même studio d'animation qui a fait la très célèbre vidéo qui compare le consentement sexuel à une tasse de thé. Et donc ils ont quelques autres vidéos d'une grande qualité, je trouve, et là particulièrement il y en a une où en 2 minutes 44 c'est deux petits bonhommes bâtons qui discutent, et en fait il y en a un premier qui dit « Ah, t'as vu, James il est mort !» et en fait, c'est le lendemain d'une fête, et la fête est tournée au drame parce que James est mort, et l'autre interlocutrice, puisque les deux voix sont féminines, elle lui dit « Ah ouais, il est mort, oh, c'est trop triste et tout, mais au fait, est-ce qu'il avait bu ?» Ou comment il était habillé. En fait, dans le dialogue, le deuxième interlocuteur ressort tous les arguments qu'on pourrait sortir à une personne qui se plaint d'agression sexuelle, d'agression sexiste. Et ce qu'il y a de bien, c'est que chaque argument qui paraît irrationnel est quand même justifié et argumenté. Voilà, justement, la première question que le deuxième interlocuteur le premier argument qui sort, c'est est-ce qu'il a bu ? Ah, parce que tu sais, quand on a bu, on se défend moins bien des assassins, tout ça. Et aussi, comment il était habillé ? Ah, parce que tu sais, pour éviter de se faire poignarder dans la nuque, on va pas porter un t-shirt, mais on va plutôt porter un col roulé.
Yes.
Et c'est trop drôle, ça a de rire. Et ça démontre bien l'irrationalité de la soupe qu'on peut servir aux personnes et aux situations de violence sexuelle et sexiste. Donc voilà, je vous la recommande. Ça parle en anglais, mais tout est sous-titré. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois pour tout bien comprendre. N'hésitez pas à y revenir plusieurs mois plus tard pour bien avoir ces arguments-là en tête, parce que c'est vachement utile lorsqu'on veut débunker des arguments sortis de la sorte dans d'autres contextes. Voilà pour les recommandations culturelles. Merci à chacune.
Merci Merlin.
On va finir, oh là, on a déjà dépassé les 1h30 d'émission. On va finir rapidement avec les rendez-vous à venir très prochainement à Tours. On va le faire rapidement. Est-ce que, par exemple, Roman, tu veux nous parler du village éphémère ?
Ouais, du village éphémère. Ouais. Alors, le jeudi 26 septembre de 10h à 17h se trouve boulevard Béranger, un village éphémère nommé Sexualité et Contraception. Donc, il y aura plein d'activités, de stands informatifs avec énormément d'acteurs de la ville, des médecins, des associations, des élus locaux. En vrai, vraiment beaucoup, beaucoup de gens, et c'est un gros événement qui prend beaucoup de temps à organiser. J'en parle parce que le planning familial y sera, donc j'y serai aussi. Voilà, c'est venez questionner, jouer, vous informer, nous rencontrer, m'apporter du café à midi. Voilà.
Merci Roman. Et là, le dernier rendez-vous qu'on vous donne, on en a noté d'autres, mais du coup, ils sont un peu plus tard, donc je me permets de reporter ça à la prochaine émission. Je vous presse comme des citrons, mais là, on a dépassé l'1h30 de l'émission. Le samedi 28 septembre, à partir de 15h, mobilisation à l'hôtel de ville de Tours, au sujet de mobilisation qui est provoquée par, à l'occasion de la lutte internationale, la journée internationale de lutte pour le droit à l'avortement. C'est le samedi 28 septembre, à partir de 15h, à l'hôtel de ville de Tours. Merci beaucoup.
Juste,
oui, Alice, rapidement.
La prochaine réunion du réseau de Simone sera passée quand vous entendrez cette émission. Mais du coup, il y aura une prochaine réunion en octobre. On n'a pas encore la date, mais tenez-vous au courant et venez nous voir en octobre. On sera content de voir de nouvelles têtes.
Sur nos réseaux. Oui. Sur la page Facebook, notamment. Et voilà aussi, vous pouvez également passer par Radio Campus, la page qui nous est consacrée sur le site des Radio Campus, vous pouvez retrouver donc les moyens de nous contacter. Merci à Ophélie, merci à Roman, merci à Anaïs, merci à Mathis de nous avoir écoutés.
Et merci à Merlin.
Avec grand plaisir, on se dit au mois prochain donc pour la suite de la deuxième saison. Merci d'être au rendez-vous, bonne écoute sur les ondes de Radio Campus Tours et à bientôt.
Salut.
Ah, une bonne femme.
Je préfère voir tes fesses que ta gueule.
Ils sont plus agréables à regarder.
Justement, est-ce que je pourrais avoir une autre de vos petites putes asiatiques ? La mienne est morte.